Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique, ni responsable, le podcast qui revient sur des expériences scientifiques et sociales dangereuses ou cocasses ou carrément flippantes. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast, mais si je vous demande ce que vous avez mangé à votre dernier repas, vous devriez arriver à me répondre. Si je vous demande ce que vous avez fait la semaine dernière, vous allez sûrement prendre un temps pour rassembler vos souvenirs et votre réponse sera très certainement incomplète. Et alors si je vous demande où vous étiez le 26 août 2003 à 15h30, j'ai peu d'espoir que vous vous en souveniez. Moi non plus d'ailleurs. On a l'habitude d'entendre tout et n'importe quoi sur la mémoire. Qu'on aurait des petites cases dans le cerveau pour tout ranger, des petits tiroirs dans lesquels fouiller pour retrouver des événements passés. On entend que la mémoire est un muscle à entraîner, qu'on n'utilise que 10% des capacités de notre cerveau, etc. Je vais peut-être vous décevoir, mais on répondra à ces questions une prochaine fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres types d'idées reçues comme « Les poissons rouges ont tout oublié le temps de faire un tour de bocal et les éléphants se souviennent de tout ». Et oui, ce sera un épisode 30 millions d'amis parce que, comme on l'a déjà vu à de multiples reprises dans ce podcast, on teste d'abord les animaux avant de s'attaquer aux humains. Et promis, pour une fois, personne ne sera blessé. Aujourd'hui, on est mignon. Alors, pour une fois, laissez-moi vous parler d'éléphants, de singes, de chiens, d'oiseaux et d'autres animaux plus ou moins mignons. One man crazy. Three very sane spectators. Commençons par le commencement. C'est quoi la mémoire? À quoi ça sert? Quelle est cette sorcellerie? Eh bien, ce souvenir d'événements passés, c'est-à-dire la mémoire autobiographique ou épisodique, nous permet tout simplement de survivre. Parce que sinon, imaginez.
Oh, le joli animal! C'est quoi? C'est mignon?
Ten years later.
Oh, le joli animal! C'est quoi? C'est mignon?
Bon, vous voyez le tableau, je pense. Il existe plusieurs types de mémoire. Il y a tout d'abord la mémoire sensorielle, très brève, qui retient l'information pendant 1 à 2 secondes captée par les organes sensoriels, comme quand vous touchez une surface par exemple. Il y a ensuite la mémoire à court terme. Elle stocke une information quelques secondes, souvent une information utile dans le moment présent, mais qui deviendra vite obsolète et donc effacée. Comme l'information « Où sont les toilettes dans ce restaurant ?» par exemple. Enfin, la mémoire à long terme mémorise un événement sur une durée illimitée, c'est celle qui est censée nous servir à ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais je juge pas, hein. Mais les questions qui se posent sont les suivantes. Est-ce que les animaux sont dotés de tous ces types de mémoire? Comment évaluer leurs souvenirs, sachant que c'est difficile d'avoir une conversation avec eux? La taille du cerveau est-elle relative à la capacité de stocker des informations? Heureusement, nous ne sommes pas les premiers à nous poser ces questions. Commençons par les plus petits, les poissons rouges. Ont-ils vraiment une mémoire de 6 secondes comme le veut la croyance populaire? Vous vous doutez bien que la réponse est non, mais on va voir pourquoi. D'après l'American Museum of Natural History, les poissons ont une mémoire spatiale et leur cerveau est doté d'une zone analogue à l'hippocampe chez les humains. Cette région du cerveau est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Dans une série d'études, les poissons rouges ont été testés pour savoir s'ils avaient vraiment une mémoire spatiale. Pour cela, on entraîne le poisson à retrouver de la nourriture dans un labyrinthe. Après l'apprentissage, lors du test, le poisson se souvient du chemin, des obstacles et retrouve la nourriture. Et même en tournant le labyrinthe à 180 degrés, l'animal arrive à retrouver ses repères. Cela suggère que le poisson rouge parvient non seulement à se rappeler de tâches spatiales, mais sait aussi les ajuster en fonction des changements d'environnement. Ok, le poisson rouge parvient à se souvenir du trajet vers la nourriture et à s'adapter aux changements d'environnement. Mais est-ce qu'on peut entraîner un poisson comme on entraînerait Médor à faire des roulades sur le sol ? Le docteur Morton Bitterman, un ancien professeur à l'université de Hawaï, a conduit des expériences de conditionnement aversif sur des poissons rouges. L'expérience consistait à opposer deux stimuli, un neutre, une lumière, et un aversif, un choc. Et après, on observe si les poissons se souviennent que la lumière, c'est bien, et que l'obscurité, c'est mal, selon là où ils vont dans l'aquarium. Et c'est ce qu'il s'est passé. Au bout d'un certain temps, les poissons rouges ont été conditionnés par la lumière. Bref, ils apprennent au moins sur du moyen terme. Dean Pomerleau, un chercheur et entraîneur de poissons, est aussi parvenu à entraîner des poissons rouges à faire certains tours en les entraînant avec de la nourriture en récompense. Je vous mets le lien de la vidéo en description où on peut voir Comet, son petit champion, entraîné à jouer au football, à passer dans des tunnels, à faire du limbo, du slalom et à rapporter un anneau. Allez voir ça, hein, ça vaut le coup d'œil. Conclusion, les poissons rouges sont bien plus intelligents qu'on ne le pense. Ils sont capables d'être conditionnés et ont une mémoire spatiale et adaptative qui leur permet de retrouver leur nourriture dans leur environnement naturel. Cela prouve aussi qu'ils ont une mémoire à court, moyen et long terme et c'est pour ça que, comme tout autre animal, ils ont besoin d'être stimulés et d'avoir un environnement assez grand et diversifié pour ne pas tourner en rond dans leur bocal comme un lion en cage. Ouais, ça commence à faire beaucoup de comparaisons animales. On passe du milieu aquatique au milieu aérien. Le saviez-vous, le jet est capable de se souvenir d'où il a planqué de la nourriture, à quelle date et dans quel ordre retourner les chercher selon la date de péremption. Je sais, j'ai l'air de me foutre de vous, mais tout est vrai. En 1998, Nicholas Clayton et Anthony Dickinson ont mené des expériences pour savoir si le jet était doté d'une mémoire épisodique, celle qu'on appelle aussi la mémoire de qui, quand, comment, en testant leur capacité à se rappeler de quoi, où et quand ils avaient planqué leur bouffe. Pour cela, les oiseaux ont été divisés en deux groupes et on les envoya récupérer des vers, périssables donc, et des cacahuètes, non périssables, qu'ils avaient cachés au préalable dans des caches faites de bacs à glaçons et de Lego. La science fait avec ce qu'elle a, que voulez-vous. Les oiseaux furent entraînés pendant des jours afin d'apprendre en combien de temps leur nourriture allait périmer et comment s'en assurer grâce à leur odorat. Après avoir observé les oiseaux se servir dans le frigo de la nature, les scientifiques ont pu tirer les conclusions suivantes. Les jets se souviennent de quel type de nourriture ils ont stocké dans les caches, laissant ainsi de côté les encas qu'ils aimaient le moins, genre les choux de Bruxelles. Ensuite, ils savent aussi mettre leur base de données à jour en se souvenant des caches déjà vidées, celles où il reste de la nourriture, indépendamment de tout élément visuel qui pourrait leur indiquer si le verre est à moitié plein ou vide. Ah ouais, elle marche mieux à l'écrit celle-là. Enfin, ils intègrent aussi la dégradation de leur nourriture. Ce qui n'est plus bon à manger est considéré comme une cache vide, ce qui est encore bon est gardé en mémoire. Bref, je n'ai plus qu'à adopter un piaf avant qu'il fasse le tri dans mon frigo. Côté terrestre et bien plus proche de nous maintenant, les chimpanzés. Parlons du projet AI. Il s'agit d'un projet de recherche à long terme explorant l'esprit du chimpanzé dans des contextes historiques et écologiques. Le projet AI a débuté en 1978 et s'est directement inspiré des précédentes études sur le langage des singes menées dans les pays occidentaux. Cependant, contrairement à ce dernier, il s'est concentré sur les capacités perceptives et cognitives des chimpanzés plutôt que sur leurs compétences de communication entre les humains et les chimpanzés. Dans le cadre d'origine, un seul chimpanzé faisait face à un appareil contrôlé par ordinateur et effectuait divers types de tâches de discrimination, d'appariement à l'échantillon. Les questions concernant l'esprit du chimpanzé remontent aux travaux de Wolfgang Köhler au début du XXe siècle. Pourtant, le Japon a son arrière-plan naturel et culturel unique. Il abrite une espèce de primate indigène, le singe des neiges japonais. Ce fait a contribué à l'émergence de deux précédents projets dans la nature menés par Kinji Imanishi et ses étudiants. Tout d'abord, le projet des singes de Kōshima a commencé en 1948 et est devenu célèbre pour sa découverte de la propagation culturelle du comportement de lavage de la patate douce. Deuxièmement, des travaux pionniers en Afrique à partir de 1958 visaient à étudier les grands singes dans leur habitat naturel. Grâce à l'influence de ses ancêtres intellectuels, Tetsuro Matsusawa a également entrepris l'étude sur le terrain des chimpanzés dans la nature en se concentrant sur la fabrication et l'utilisation d'outils. Ce travail a démontré l'importance des perspectives sociales et écologiques, même pour l'étude de l'esprit. Combinant des approches expérimentales avec un environnement de terrain, le projet AI continue d'explorer la cognition et le comportement des chimpanzés, tandis que son objectif est passé de l'étude d'un seul sujet à celle de la communauté dans son ensemble. Un enfant singe en particulier, le fils d'Aï, Ayumu, a soudainement commencé à effectuer une discrimination d'appariement à l'échantillon sur l'écran d'ordinateur à l'âge de 9 mois, après avoir étroitement observé le comportement de sa mère dès la naissance. Nous pouvons être certains que cet apprentissage n'a pas été façonné par la récompense alimentaire, puisque la récompense elle-même était un jeton, une pièce de monnaie, un morceau de métal qui ne pouvait pas être mangé. Puis, à l'âge de 2 ans et 3 mois, Ayumu a appris à insérer le jeton dans un distributeur automatique, une action pour laquelle il a reçu une récompense alimentaire. Les données recueillies dans ces expériences menées dans une communauté captive soulignent l'importance et la validité de l'éducation par l'apprentissage via un maître pour l'acquisition de connaissances chez les chimpanzés. D'ailleurs, vous pouvez aussi mesurer votre capacité mémorielle face à Ayumu grâce à un petit site que je vous mets en description de ce podcast. Mais ce ne sont pas les seuls animaux ayant retenu l'attention des chercheurs. Allez, c'est l'instant pêle-mêle. Les saumons arrivent à retrouver la rivière de leur naissance pour se reproduire. Mais comment arrivent-ils à se souvenir de la route alors que moi je suis obligée de mettre le GPS dès que je sors de mon patelin ? Personne n'est encore arrivé à un consensus, mais on soupçonne qu'ils soient guidés par le magnétisme terrestre, les courants marins, les étoiles, la lune, etc. Une fois près des côtes, ils pourraient se repérer au flair, ayant gardé l'odeur en mémoire. Ils auraient donc une très bonne mémoire spatiale et olfactive. De la même manière, les tortues sont aussi capables de retrouver leur lieu de naissance, là aussi pour pondre leur bébé. Et elles peuvent se souvenir du chemin pendant très longtemps. Une tortue lutte a été retrouvée en Malaisie, revenant pondre après 32 ans de périple. Vous imaginez ? 32 ans de route ! Incroyable ces embouteillages sous-marins ! La tortue, comme le saumon, se repérerait grâce à leur mémoire sensorielle, les champs magnétiques terrestres, leur vue, leur odorat et leur audition. Mais ce ne sont pas les seuls à pouvoir retrouver leur maison facilement. Les pigeons voyageurs, par exemple, c'est un peu leur intérêt. Eux aussi ont une mémoire sensorielle des champs magnétiques et des repères visuels pour retourner aux pigeonniers. L'écureuil, de son côté, se rapproche du jet dont nous avons parlé précédemment. Comme lui, il aime bien planquer de la bouffe comme Caradoc cache du jambon sous son matelas. Là aussi, ils ont été étudiés et ils sont capables de retrouver leur planque d'une saison à l'autre, même si les odeurs y ont été masquées artificiellement. En effet, le rongeur ne se repère pas à l'odeur, mais à ce qu'il voit de son environnement. Une bonne mémoire spatiale, donc, lui conférant un avantage indéniable lors des chasses au trésor organisées en colonies de vacances. On a aussi fait des expériences sur les abeilles. Comment elles retrouvaient les fleurs à butiner et comment elles retrouvaient leurs ruches ? Là aussi, c'est grâce à leur mémoire sensorielle. L'expérience consistait à attendre que les abeilles aient quitté la ruche pour aller butiner, et pendant leur promenade, les chercheurs ont retiré la ruche et ont mis un tabouret à la place. Les abeilles de retour se sont toutes posées sur le tabouret, désorientées et se sentant un peu couillonnées de ne pas retrouver leur maison, un peu comme quand tu rentres bourré chez toi et que tu essayes de rentrer ta clé dans la serrure des voisins. De la même manière, les abeilles se souviennent des fleurs déjà butinées et de celles où elles n'ont pas fini de récolter le pollen. D'ailleurs, pour retourner vers celles-ci, elles vont systématiquement reprendre le même chemin, même si ce n'est pas du tout le plus court. Et je suis sûre que vous ne vous êtes jamais demandé si une mouche avait une bonne mémoire. Eh ben, elle en a une. Ouais, ouais, des scientifiques ont étudié des mouches.
La mouche qui pète.
Tout comme avec les poissons rouges, on a tenté de les conditionner avec un système de récompense et de punition. Les chercheurs ont tenté de leur faire associer une odeur particulière à une décharge électrique et une couleur particulière à de l'eau sucrée. Et ce fut une réussite. Les mouches drosophiles sont capables d'apprentissage et elles peuvent s'en souvenir toute leur vie. D'autres expériences d'habituation et de stimuli ont aussi été réalisées avec d'autres animaux tout aussi inattendus, comme les fourmis, les vers, la plisie, je vous laisse googler, c'est un animal fascinant, ou encore la seiche. Mais du coup, concernant l'éléphant, c'est pas juste une idée reçue. L'éléphant a une très bonne mémoire, mais qui n'a rien à voir avec la taille de son ciboulot. Il mémorise très bien les endroits pour boire, manger, se baigner, mais il peut aussi très bien se souvenir d'un visage humain ou animal des années plus tard. Et pour ça, je vous renvoie aux multiples histoires où un éléphant retrouve son ancien cornac qui l'a maltraité et lui défonce la gueule en revanche. De même, l'histoire de ces deux éléphants de cirque qui ont été séparés lors de la fermeture et se sont retrouvés des années plus tard et se sont fait un gros câlin, heureux de retrouver une vieille branche. Mais non, l'éléphant n'a pas un gros cerveau, proportionnellement du moins. Son cerveau pèse environ 5 kg, sachant que l'animal pèse 3 tonnes. En comparaison, le cerveau humain pèse environ 1,4 kg. Par exemple, toujours proportionnellement, le pigeon a un plus gros cerveau que l'éléphant. Et à mon humble avis, c'est sa seule qualité.
J'en ai marre de pigeons, je déteste les pigeons. Oui, je hais les pigeons, oui, je hais les pigeons.
Mais attendez, on n'a pas parlé des perroquets? Bah oui, ils se souviennent de ce qu'on leur dit pour nous le répéter en boucle. Et oui, les perroquets sont dotés d'une mémoire musicale. Oui, comme le petit Jean-Eudes qui peut reproduire un aria au violon en l'ayant seulement écouté une fois. En vrai, cette faculté du perroquet lui sert à communiquer avec ses congénères, mais aussi à se défendre en milieu naturel en imitant un plus gros prédateur pour faire peur. Bon, qu'est-ce qu'on a appris avec tout ça, me direz-vous? Je sais pas, c'était sympa aussi pour une fois de pas parler de torture animale. Bon, plus sérieusement, la mémoire est un atout de survie. Si vous n'êtes pas capable de vous rappeler où est la bouffe, comment rentrer chez vous ou comment reconnaître la tanière du prédateur qui vous traque, vous n'allez pas faire long feu dans le règne animal. La mémoire est donc un gros atout retenu par la sélection naturelle. On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas qu'un type de mémoire. Chaque espèce développe une forme de mémoire selon ses besoins en matière de survie et chaque système neuronal est unique à une espèce. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser vos commentaires. Uniquement les compliments, hein, merci. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.